y a longtemps. Quand c'était encore le bon temps. Dans un pays d'ailleurs. Un village, un château, une cabane misère par une nuit sans lune.
Luigi Regnanese, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes programmé cette année dans le cadre du festival Conteurs en campagne avec les foyers ruraux 59-62 et donc programmé notamment à Magny-Cours-en-Comté, c'était hier, mais aussi à Nordpen samedi, à Wamil avant ça vendredi et puis aussi à Frémicourt ce dimanche. Alors, une première question, comment ça s'est passé, vous, votre rencontre avec le comte ?
Plutôt pas mal, plutôt bien. C'était pas un bel après-midi. Comme ça, j'habite à Paris et je l'ai rencontré dans l'escalier. Elle avait une jupe assez courte. Elle sentait bon le sable chaud, elle revenait de vacances. C'était ma voisine qui était conteuse et voilà, ça s'est bien passé. Je vous raconte pas la suite parce que je sais pas quelle heure c'est diffusé, donc voilà.
Qu'est-ce qui vous a intéressé finalement ou fasciné finalement, puisque maintenant vous êtes quand même conteur,
oui.
dans cette discipline?
Ce qui me plaît, c'est la verticalité. Non, c'est pas, je vais m'expliquer, parce que les histoires viennent de loin. Le besoin de raconter chez l'homme est fondamental. Je pense que dans certains livres, je ne sais plus lequel, c'est marqué le verbe est créateur. À l'origine, fut le verbe. Et je pense que c'est ce qui constitue notre humanité. Échanger par la parole, et les histoires ont traversé les siècles et elles sont encore vivantes aujourd'hui, comme les cathédrales, mais de manière beaucoup plus discrète. Et pourquoi on se raconte des histoires, ça c'est vraiment une question qui m'interroge encore. J'ai pas toutes les réponses, mais il suffit qu'on aille dans un bar ou dans un salon de thé ou dans n'importe quel endroit où les gens partagent un peu d'intimité pour voir que le plaisir de raconter des histoires appartient à tout le monde. Le faire de manière professionnelle, c'est juste raconter des histoires à plus de monde. Et ce qui me fascine, c'est les croyances dans notre société. C'est-à-dire, quand je raconte des histoires, je fais croire aux gens des trucs incroyables. Mais ils jouent le jeu. C'est comme quand on est enfant. On dirait que. Et ça se passe. Et ce qui m'amuse aussi, c'est les croyances qu'on partage aujourd'hui, en 2014, et auxquelles les gens disent « Vous racontez des histoires, mais c'est pour les enfants alors. Hein. » C'est parce que quand même, l'histoire de fées, tout ça. Je dis « Oui. » C'est pour les grands aussi. Et je leur demande à eux à quoi ils croient. À quoi croyons-nous collectivement? C'est la crise, par exemple. On croit collectivement. Est-ce que c'est une réalité? C'est une question intéressante. Que pour être heureux, il faut travailler plus et gagner plus. Vous voyez, des croyances qu'il faut avoir une maison, une femme, un crédit à vie qui nous empêche de faire autre chose. C'est des croyances qu'on partage tous.
Vous avez parlé de tradition et puis aussi de la vie d'aujourd'hui. Alors quel rapport vous avez au conte, à la tradition, essayer de bousculer un petit peu la tradition ou...
Non, mais qu'est-ce que c'est qu'une tradition? C'est une bonne question. On dit tradition, trahison. Voilà, c'est ça. Dans tradition, il y a deux courants. Il y a un courant conservateur, folklorique, qui dit « c'était mieux avant, il ne faut rien changer ». Et il y a des gens qui construisent des carrières politiques là-dessus, et qui vont manifester pour défendre le droit à la famille, comme si la famille n'avait pas changé depuis des siècles. Le monde est en mouvement, ce qui ne bouge pas, c'est la mort. Donc ça bouge moins vite. Le monde bouge, donc la tradition, ce qui m'intéresse, moi, c'est voir quelles sont les questions qui traversent l'humanité depuis des siècles. Et c'est à peu près les mêmes partout, sur toute la Terre, quand on s'intéresse aux contes. Comment vivre ensemble en paix. Comment accepter de mourir? Quel mystère la vie, parce que c'est quand même une sacrée question. Et l'amour, c'est quoi? Et la trahison. Donc ça, on retrouve ça dans toutes les traditions, déclinées de telle manière différente. Et moi, c'est ce qui me plaît. Donc moi, je suis plutôt d'origine italienne, ou gironaise, vous entendez bien, et française. Et donc, je creuse dans les racines culturelles de cette partie de l'Europe pour voir quelle résonance universel, il y a dans les histoires et qui parle aujourd'hui aux gens d'aujourd'hui en prenant la bonne ruse. Il était une fois, ça se passait il y a longtemps, comme ça on se méfie moins.
peut-être justement, on peut peut-être vous entendre une première fois, un premier extrait d'un conte.
Ah oui, je vais pas vous faire, Ouais, je raconte en musique parce que j'aime bien mélanger le rythme de la parole à sa musicalité avec avec le pouvoir narratif de la musique. Donc là, c'est fait à l'arrache. Je vais vous raconter une histoire improvisée tout de suite. Il était une fois un prince, fier et orgueilleux. Sa princesse venait de le quitter et pour lui, c'était une grosse difficulté parce qu'il se sentait atteint dans sa virilité. Alors, il a organisé dans le château de la Belle au Bois Dormant une rencontre extraordinaire avec une belle princesse chanteuse en disant « Vous voyez, ma nouvelle fiancée est mannequin international italien. Elle chante, c'est une poétesse et elle a choisi moi le nain. Je ne suis pas si nain, non. Je suis plutôt viril. Je passe après Mick Jagger et tant d'autres célèbres. Et le petit prince était content, il a fait une grande fête dans le château de la Belle au Bois Dormant. Et depuis, ils vivent une romance extraordinaire. » Voilà une petite histoire.
Ça nous rappelle quelque chose.
Ah, alors, après, ça rappelle ce que vous voulez. Ça, c'est le pouvoir des histoires. Hein. C'est pas moi qui choisis.
Alors, sur la présentation de votre compagnie, la compagnie DA, hein, c'est bien ça. Il y a un petit descriptif qui vous définit comme ethnologue urbain et rural. Alors, le rapport du conte à l'ethnologie, Luigi Rignanese.
Oui, ça remonte à quand même. Il y a un moment, 30 ans... 20 ans, le bac en poche, qu'est-ce que je fais comme étude? C'était compliqué. Et j'ai essayé pas mal de trucs, et ma mère, depuis que j'étais tout petit, me disait « Mon enfant, écoute la sagesse de ta mère. » Alors j'écoutais, j'étais un gentil petit garçon. Elle me disait « Il faut que tu trouves vite un bon travail, que tu travailles sérieusement pendant 40 ans, parce qu'un jour tu seras à la retraite. » Quand j'avais 10 ans, je me disais « Ça c'est un conseil quand même utile à la retraite. » Je me demandais ce que ça voulait dire. Et puis, en grandissant, à 20 ans, je comprenais bien ce que c'était qu'à la retraite. Je voyais autour de moi des gens qui atteignaient enfin l'âge 65 ans à l'époque, puis 62, puis 60, puis 58, puis 55. Et aujourd'hui, on remonte bientôt 75 ans. C'est comme ça, c'est les hasards de la vie. Donc, la retraite s'éloigne pour moi. Mais quand j'ai eu 20 ans, je me suis dit quand même, je n'arrivais pas à trouver le métier que je voulais faire, parce que c'est compliqué de choisir parfois à certains âges de la vie. Et donc, après avoir perdu mon temps sur les bancs de faculté pendant 2-3 ans, j'ai eu une révélation. Un matin, je me suis levé et j'ai dit « Je vais me mettre à la retraite tout de suite. » Parce que ma mère me dit « Pense à la retraite. » Et moi, je vais y penser. Et je me suis mis à la retraite pendant un an, de 20 à 21 ans. Je me suis vite ennuyé. J'ai dit « C'est pas pour moi la retraite. » Et ma mère était catastrophée, mais au moins, j'ai fait cette expérience. Et pendant ce temps, je me suis dit « Qu'est-ce que je voudrais faire ?» Et je me suis mis à discuter dans les bars avec les gens. Mais dans tous les bars urbains et ruraux. Et je me suis découvert une vocation d'ethnologue urbain et rural, où en interrogeant mes prochains, je découvrais leurs aspirations, leur intimité, leurs failles, leurs désirs. Et ça m'a ouvert des chemins de créativité et de compassion et d'empathie vis-à-vis de mes prochains et de plus grande tolérance vis-à-vis de moi-même en me disant « Tout n'est pas perdu, mon gars, tu n'as que 20 ans. » On verra plus tard. Donc voilà.
Et le rapport avec le compte, le compteur fait aussi ce travail d'aller dans les bars.
Tout à fait.
Rencontrer les gens.
Oui. Si vous l'écoutez en train, vous verrez, ça raconte. Voilà, on peut enchaîner sur le spectacle que je vais présenter. Je ne sais plus dans quel village.
À Wami, les frais mi-cours.
C'est ça. Et donc, en train, c'est une nouvelle création qui part d'une rencontre, justement, où j'étais dans le train, dans le TGV, pour aller à Marseille. Je rentrais chez moi d'une longue tournée et j'étais content. Parce que j'étais assis dans un carré, 4 places en seconde classe, et en face de moi, il n'y avait personne. Je pouvais allonger mes jambes, et ça allait être un beau voyage. Et au moment où j'entends le petit bip 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 qui annonce la fermeture des portes, en me disant « Chouette, là pour 3 heures, je suis pépère », et j'entends une voix qui fait « Pardon ». Je tourne la tête, et devant moi, un Golgoth de 2 mètres de haut. Crâne chaud, petits yeux porcins, des mains comme des battoirs, qui dérange la femme qui était dans ma diagonale et qui s'installe juste en face de moi et qui instaure tout de suite un rapport animal dominant-dominé. Où le dominé, ça devrait être moi, parce que je faisais 2 têtes de moins que lui et 100 kilos de muscles en moins. Mais je ne suis pas du genre à me laisser faire. Donc plutôt que de battre en retraite, j'ai ouvert ma bouche et on a parlé pendant 3 heures. C'est comme ça que j'ai rencontré un légionnaire et qu'on a échangé. Et c'était c'est un exercice d'ethnologie urbaine intéressante parce que j'ai rencontré un tueur professionnel. Et c'était une rencontre très forte dans ma vie et je partage ça. Après, je raconte des histoires. On rit, on pleure. Je raconte aussi une séance chez mon coiffeur à Forcalquier qui s'appelle Marcel, qui n'arrête plus d'arrêter de fumer, qui fume, parce que sinon c'est compliqué la vie pour lui. Et je raconte des contes merveilleux. Voilà, c'est un voyage, comme la vie.
Alors ça, c'était pour En Train. L'autre spectacle que vous présentez dans le cadre de Contours en campagne, c'est Présent à partager. Donc là, c'est des chansons, des contes aussi issus de votre répertoire.
Oui, ça fait 20 ans que je fais ce métier, 14 ans que je suis professionnel, je commence à avoir un bon bout de répertoire. Et dans les festivals de contes, généralement, on nous invite pour raconter un spectacle. C'est-à-dire que un spectacle s'est construit. Et me manque le plaisir d'improviser en fonction du moment, de puiser dans mon répertoire, en fonction de l'âge des spectateurs, en fonction du temps, en fonction de qui j'ai rencontré. Et Présent, ça, c'est un peu ça, c'est-à-dire hier soir, avant le spectacle, on a discuté travail et j'ai des comptes sur le travail, donc j'ai raconté des histoires sur le travail et c'était chouette. Et puis la prochaine fois, je sais pas.
Donc hier vous étiez à Magny-Cours en Comté. Quel regard vous portez un petit peu sur le festival Conteurs en Campagne ici dans le Nord-Pas-de-Calais?
Un regard doux et bienveillant. Je suis admiratif du travail des foyers ruraux autour de l'oralité depuis 22 ans et puis du travail des foyers ruraux autour du vivre ensemble depuis 40, 50, 60 ans. Je ne me rappelle plus, je n'ai pas les dates, mais ça fait un moment que ça existe. Ce côté où des bénévoles s'associent pour travailler au bien-être commun, sans autre intérêt que de voir les gens heureux. Et ça, c'est juste extraordinaire. Si chacun s'occupait de son voisin, le monde ça irait mieux, je pense. Et ce qu'ils font pour l'oralité depuis 22 ans, c'est très bien. Ce qui est drôle, c'est qu'au départ, c'est un projet du ministère de l'Agriculture qui a mis en place des festivals de contes pour sortir les campagnes de leur isolement. Et c'était une belle idée parce qu'à travers le conte, moi je suis d'origine italienne, mais les Italiens maintenant, ça va, on est intégrés parce qu'on est européens. Mais quand j'étais petit, on me traitait de sale rital et ça faisait 100 ans que les Italiens venaient en France. Il a fallu 100 ans pour qu'on dise on arrête de nous traiter de sale macaroni. Mais on s'arrêtait de nous traiter de sale macaroni, non parce que les Italiens avaient changé, mais parce que sont arrivés les Espagnols, puis les Portugais, puis les Algériens. Et la prochaine vague, ce sera les Chinois quand il y en... Et on dira ça, c'est terrible, c'est l'humain qui marche comme ça. Et le fait d'entendre des conteurs africains, d'entendre des conteurs maghrébins, d'entendre des conteurs du monde entier, amérindiens qui viennent grâce au festival, c'est une ouverture culturelle sur le monde parce qu'on se aperçoit que malgré les différences, on a tous peur de mourir, on a tous peur d'aimer et qu'on adore tous ça quand même. Enfin voilà, qu'on est heureux quand on met des enfants. Et quand je dis des enfants au monde, c'est pas seulement des enfants physiques, c'est aussi des projets. Comment on s'inscrit dans une action de construction? Les contes parlent de ça, de la difficulté qu'on rencontre et des joies qu'on a à les surmonter collectivement. Et voilà, j'aime bien les foyers ruraux pour ça, parce que je me sens à ma place avec eux.
Avec les foyers ruraux, vous intervenez aussi dans des prisons, donc avec un public de détenus.
Oui.
Donc là, ça se passe cet après-midi, donc c'est un petit peu tôt pour en parler ici dans le cadre de ce festival. Mais comment vous abordez de manière générale ces interventions en prison?
Je les aborde avec la plus grande humilité et le moins de préparation possible, parce que ça se passe jamais comme prévu. Ça se passe jamais comme prévu parce que l'administration pénitentiaire, c'est compliqué pour eux. J'ai l'impression de prévoir que... Je ne suis pas un spécialiste, alors peut-être je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que la prison fonctionne un peu comme à l'école, c'est-à-dire quand on n'est pas sage, on est puni. Donc il suffit peu de choses pour être puni. Donc parfois, il y a 20 ou 30 détenus qui sont prévus, on se retrouve à 3, ou 2, ou 1. Et c'est pas pareil de raconter à une personne que de raconter à plus. Et on ne sait jamais qui on va avoir. La dernière fois que je suis intervenu en prison, c'était à Grasse. dans le sud-est, où c'est un centre, une maison d'arrêt, c'est-à-dire que les gens, ils sont là en attente de jugement. C'est une ambiance très particulière, parce que on rencontre des gens qui sont là depuis 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, et qui attendent d'être jugés. Donc, ils sont présumés innocents, mais ils payent déjà pour la société. Pour moi, c'est un peu compliqué à comprendre. Et c'est le système français. C'est-à-dire, quand on vous croit coupable, on vous enferme. Et si vous êtes innocent après, ben on s'excuse. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un, ça faisait 3 mois qu'il était en prison. Et pendant 1 mois, il n'a pas pu téléphoner à personne, ni à sa mère, ni à sa femme, ni à ses collègues de travail, à ses associés. Pendant 1 mois, il a disparu. C'est une drôle d'expérience. Et nous en sommes responsables collectivement. Parce que c'est facile. Les prisons, ce qui est intéressant pour moi, c'est que tant que j'étais pas compteur, j'y étais jamais allé. Là, j'y vais régulièrement. Et ben, on se rend compte du système carcéral qu'on cautionne en France. Parce que de dire je suis pas au courant, c'est trop facile. Parce qu'on paye des impôts pour ça. On paye un système, on vote. Donc, c'est une décision collective. Et je pense que c'est améliorable assez facilement. Et après, voilà, j'arrive là-bas et en fonction des gens, je raconte. L'autre fois, c'était des laitons qui parlaient très mal le français. Voilà, je n'ai pas raconté les histoires que j'avais prévues, j'ai changé. Et on a bien rigolé, c'est des gens formidables.
Luigi Rignanese, vous êtes intermittent ?
Oui.
En lutte actuellement ?
En lutte. On est toujours en lutte quand l'intermittent... Moi, je remercie beaucoup tous les gens qui payent des impôts et qui cotisent à l'assurance chômage parce qu'ils m'offrent la possibilité de travailler de manière intermittente, comme un intérimaire. Voilà, je suis intérimaire du spectacle. C'est-à-dire, je travaille, je paye des cotisations. Et si ce système perdure, c'est grâce à comment on appelle ça, la solidarité collective. Et donc, je suis reconnaissant à la société... d'avoir mis en place ce système. Je n'abuse pas, je travaille beaucoup. Mon rôle, c'est de me perfectionner et j'invite les gens à venir voir si je suis à la hauteur du contrat social qui nous lie, avec plaisir. Et du coup, j'interviens bénévolement, pas ici, là je suis dans le cadre officiel, je suis payé, mais ailleurs, je donne de mon temps, comme les bénévoles du... des foyers ruraux pour rendre à la société ce qu'elle me donne, donc je me sens pas redevable. Et après en lutte, oui en lutte, parce qu'on est dans une société où les intermittents, les intérimaires, les précaires et puis même ceux qui sont salariés, on est en train de déconstruire, et on l'accepte, je sais pas pourquoi on accepte ça, on est en train de déconstruire ce qui a été fait juste après-guerre par le Conseil National de la Résistance, où on a rééquilibré les forces entre les patrons et les ouvriers, et aujourd'hui le déséquilibre se refait comme au 19e siècle. Je vois pas pourquoi aujourd'hui un patron de supermarché gagnerait 40, 50, 60 fois le salaire de la caissière. C'est pas juste, et on veut nous faire croire que c'est juste. Si le supermarché marche, c'est grâce au travail de tout le monde. Si une usine fonctionne, la société fonctionne, c'est parce que tout le monde participe, et les patrons évidemment qui méritent une rémunération plus grande, mais pas si disproportionné. Donc, je suis en lutte pour le système des intermittents, parce que c'est juste un chiffon rouge qu'on agite devant les yeux des gens. Parce qu'il faut quand même savoir que quand il y a eu la crise des intermittents au mois de juin, où les journaux en ont fait les choux gras, les fainéants, dans le même temps, la semaine suivante était renégociée les départs à la retraite, je crois. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il me semble que c'est ça. Différer l'âge de la retraite et les syndicats qui ont signé avec le MEDEF, et j'en ai parlé avec des responsables, ils n'étaient pas contents. Plus ou moins, ils avaient dealé les intermittents en échange, on ne touche pas aux retraites. Mais ils se sont fait avoir. Le MEDEF a cassé la figure au système intermittent et au système de retraite. Donc, ils n'étaient pas contents. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas parlé des retraites, ni des conditions de travail qui concernent tout le monde, et ni de la volonté du gouvernement en place pour qui j'ai voté, mais pas pour le programme qui met en place. Voté pour autre chose, je me suis fait avoir. Eh bien, ils sont en train de détricoter le CDI, parce que c'est pour le MEDEF et les grands patrons, c'est insupportable qu'il y ait des CDI. Il faudrait juste des CDD. Comme ça, on revient au droit de... Pas de cuissage, c'est peut-être exagéré, mais au droit de servage. C'est-à-dire, vous êtes lié par contrat, vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche si on ne vous le renouvelle pas. C'est facile. Hein. Les histoires racontent ça. Voilà. Les contes me plaisent parce qu'ils racontent le même combat qui existe depuis des siècles, qui est le rapport d'un pouvoir et d'un partage.
Luigi Rignanez, peut-être une dernière histoire pour la route ou une petite chanson ou quelque chose.
Allez, une dernière histoire, mais sans la guitare, c'est plus facile parce que là, je suis bien installé. Il y a un homme qui existe en Méditerranée qui s'appelle Nasrudin, qui est un homme formidable. Et on raconte de lui qu'il est tellement intelligent que parfois, il est stupide. Et d'autres disent de lui, mais non, il est tellement stupide que parfois, il est intelligent. Ce jour-là, Nasrudin fait la sieste. Sa femme vient le réveiller en colère. Elle lui dit, Nasrudin, toi, tu sais parler ? C'est la famine, c'est la famine, on est en train de mourir de faim, il n'y a plus rien, c'est la crise, les récoltes ont été mauvaises, il y a trop plu, comment on va faire? Les gens meurent, ils deviennent fous, ils s'entretuent, les riches, dans leur grenier, ils ont de quoi manger, ils ont largement de quoi manger, ils n'ont qu'à partager. Toi qui sais bien parler, va voir, va sur la place et parle pour que les gens partagent et que ça aille mieux. Il dit, ma femme, tu as raison. Il se lève de sa sieste, il court sur la place. Et 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, Nasrudin revient exténué, avec le sourire. Et sa femme lui dit, alors, comment ça s'est passé? Oh, je suis épuisé, j'ai parlé pendant 3 heures. J'ai à moitié réussi. Elle dit à sa femme, ah bon, à moitié? Et comment ça? Il dit, ben, tous les pauvres, ils sont d'accord, mais les riches, non. Ils veulent pas partager toujours. Voilà l'histoire.
Luigi Rignanez, merci d'être venu dans le studio de Radio PFM. Je rappelle que vous serez donc à Wamil, donc c'est près de Dunkerque, ce vendredi. Aussi à Nordpen, c'est dans les Flandres, ce samedi. Et enfin, près de chez nous, entre Arras et Cambrai, à Frémicourt, ce dimanche. Je cherche un petit peu l'horaire pour ne pas dire de bêtises. Donc ça se passe à 15h ce dimanche.
C'est ça. Eh bien, à dimanche, hein, s'il fait mauvais, venez écouter des histoires. Et si vous n'êtes pas là, c'est que vous faites autre chose. Et j'en suis bien content pour vous. Merci de l'invitation. À bientôt.
À bientôt.